Cette semaine à la vie en BD, le premier club de lecture de la saison. Des autres années, ben c'est le moment de l'émission où on est en groupe et où on parle de bande dessinée à plusieurs. Alors, un peu comme on l'a dit en début de saison, ben on continue de varier un peu les formats, de varier un peu les contextes dans lesquels on parle bande dessinée. Et évidemment, à travers tout ça, ben les clubs de lecture, j'avais envie de les ramener. Je pense qu'on avait envie aussi de les ramener, de garder ces lectures imposées qu'on s'inflige depuis déjà quoi, 5-6 ans comme tel. Et on va voir où ça nous amenait. Je pense qu'on a poussé l'an dernier jusqu'à une certaine logique les thématiques à caractère social avec des thèmes qui étaient de plus en plus précis, de plus en plus détaillés. Alors on va voir maintenant où ça va nous amener. J'ai amené l'idée d'un critère plus axé sur le style, les approches, les moteurs de scénario. Mais on verra, vous connaissez mon autorité légendaire face à ce groupe, donc on verra à quel point ça sera respecté au fil de l'année. Et mes brèves trêves de tergiversation, je vais faire un petit tour de table pour saluer donc mes co-lecteurs cette semaine, tous amateurs de bande dessinée et autres littératures. Alors, Émilie Roy-Brière, bonjour.
Allô, Raymond.
Et Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Hey, content d'être avec vous, gang, pour une nouvelle saison, sérieux. Merci de m'endurer pour une nouvelle ride.
Merci à toi d'être là. Et un collaborateur de la première heure, je pense, qui était là dans les premières émissions. On est rendu à 417 d'ailleurs, incidemment. 417, 418, là, je suis en train de reperdre le compte. Marco Duchesne, bonjour.
Merci de me donner mon âge.
Mais, et le mien aussi, par la bande.
Effectivement. Mais bonsoir tout le monde. Oui, effectivement. Et toujours content de faire partie, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, de cette aventure.
De cette aventure et de ce club de lecture qu'on propose. Je rappelle le concept peut-être, en fait, parce que j'imagine qu'à chaque année, il y a plein de gens qui commencent à écouter l'émission de façon spontanée. Alors, pour ceux qui nous rejoignaient pour la première fois, le concept est relativement simple. Alors, on garde un peu l'esprit des dernières années où on aime que chacun amène de l'eau au moulin et propose une lecture. Alors, donc, on choisit un thème, donc un ou quatre le détermine, va proposer ensuite une lecture attachée à ce thème-là, et les autres vont chacun proposer une lecture inspirée également par ce thème. Et ensuite, bien, on lit les bandes dessinées, on les apprécie ou on les tolère, et on en parle ensuite pendant une heure en direct à la radio. Alors voilà, le concept est fort simple, et je vais me lancer peut-être avec la description du premier thème. Ce que je disais qu'avec mon autorité légendaire, j'essayais de nous ramener à des thèmes. En fait, je me rappelais de la belle époque, quand nous étions jeunes, Marco et moi, où nous parlions de la nouvelle ligne claire et de structure, de récit, d'allitération visuelle, bref.
Quelle belle époque.
Quelle belle époque, ces temps jadis.
On ne parlait que de la ligne claire. La nouvelle ligne claire, l'ancienne ligne claire, la nouvelle ligne claire.
La ligne claire semée.
La proto-ligne claire.
Et donc, je me suis dit, ramenons ça à un cadre stylistique. Et personnellement, en fait, j'aime bien, à l'occasion, voir des albums où, des fois, on dirait qu'on a juste envie de feuilleter l'album, où qu'on voit qu'il y a une esthétique particulière qui ressort de l'album. Il y en a des constructions, j'aurais pu aller avec des constructions de la page, je pense à des Habibi, peut-être avec justement la structure, l'architecture des planches, peut-être d'aller avec de l'explosion visuelle, je pense à l'âge d'or aussi, où on voit avec plein de couleurs, avec une grande richesse de ce côté-là. Mais je me suis dit en même temps, des fois la créativité vient de la contrainte. Et donc, pourquoi pas se lancer avec une approche un peu minimaliste quant au champ visuel et d'aller justement avec des explorations rattachées à peu de couleurs. Donc des albums qui sont en bichromie, des albums qui prennent 3, 4, 5 couleurs tout au plus, à peu près, peut-être un peu plus pour ceux qui aiment bien les trucs un peu fastueux accompagnés de trames sonores de Basile Polidoris, Lovecraftien. Mais ça tourne un peu autour de ça, donc l'idée d'explorer avec une palette de couleurs limitée. Alors, à partir de ça, on a quatre albums qui en sont ressortis, donc chacun de nos interprétations du thème. Je vais mentionner rapidement les quatre albums, ensuite on fera un petit tour de table pour que chacun présente un peu son choix. Évidemment, comme on est dans un cadre aussi visuel et pas seulement narratif, eh bien, on présentera à la fois le récit, mais aussi l'élément visuel qui nous a amené à le proposer dans le contexte de ce sympathique thème. Alors, il s'agit donc de Conan le Cimérien, le tome 13, Xuthal le Crépusculaire de Christophe Beck au scénario et Stéphane Subic au dessin, c'est chez Glénat. De Glengange dans le flot des souvenirs de Kevin Huizenga chez Delcourt. De Bouée et Voler au-dessus des trous, donc deux albums de Catherine Lepage disponibles aux éditions de La Pastèque. Et enfin, également aux éditions de La Pastèque, Voyage au centre de la Terre de Matteo Berton, d'après l'œuvre évidemment de Jules Verne. Alors, ben, peut-être question de ne pas continuer à monologuer trop longuement. Je vais passer vers quelqu'un d'autre pour présenter son album. J'y reviendrai avec le mien tout à l'heure. Et comme Marco, ben, en fait, j'ai senti qu'on avait une grande chimie en se lançant des boutades. Alors, je te laisserai présenter donc ton choix en premier. C'est toi qui as pris Glengange.
Oui, effectivement, Glengange dans le flot des souvenirs, un album américain qui a été traduit il n'y a pas longtemps et comme passé inaperçu. Aussi sur le flot des nouveautés et qui n'a pas fait grand éclat sur les réseaux, même américains, même les autres, mais qui est arrivé comme ça un jour sur une tablette et j'ai commencé à lire la chose et waouh! Mais en même temps, on comprend le non-engouement pour cet album. Je l'ai choisi parce qu'effectivement, il était dans tes critères, il était valide, c'est-à-dire qu'il est en deux couleurs, peut-être trois, le vert, le... Mais sa particularité, c'est que l'auteur a choisi que de nous présenter ce personnage Gange comme de le présenter mais dans sa tête. Nous allons voyager pendant une journée et toute une nuit d'insomnie dans sa tête.
Au fil de 216 planches.
Oui, voilà. Et ce périple, parce que c'en est un, dans sa tête, aurait pu être quelque chose de banal et tout, mais l'auteur, le dessinateur, le créateur, a décidé de nous faire voir les moments les plus importants et comment ça se passe, cette pensée. En continu, parce que c'est toujours une pensée en continu, et comment il a pu arranger certains moments, certains passages pour intensifier cette réflexion que Gange a sur toute notre pensée continue. Et moi, je me suis beaucoup identifié à ce personnage-là, beaucoup identifié, parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'insomnie depuis quelque temps, et... cette pensée continue-là, ben moi, je me suis beaucoup identifié à ça. C'est un hamster, on l'appelle le hamster. Là, qui... Bref, voilà. Alors, au niveau narratif, c'est ce qui m'a été, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est cet album.
Alors, c'est un premier titre de notre sélection. Émilie Roy-Brière, tu as été vers du Québécois, vers Catherine Lepage, Diptyque, donc Bouée et Voler au-dessus des trous.
Mais oui, en fait, à ton critère de la palette limitée, j'ai décidé d'en ajouter un parce que je trouvais que collectivement, la saison dernière, on n'avait pas tant que ça de bandes dessinées québécoises. Donc voilà, j'ai décidé de mettre le pied à l'étrier. J'étais allée voir dans ma bibliothèque ce qui pouvait bien fonctionner. J'en suis ressortie avec Bouée de Catherine Lepage, qui est l'album le plus fluo que je connaisse, qui est en bichromie rose puis turquoise, avec la suite Volée au-dessus des trous où la palette est un petit peu plus étendue, mais pas tant que ça. Souvent, on va fonctionner à deux couleurs, trois couleurs, pas plus. Puis bon, dans les bandes dessinées de Catherine Lepage, dans Bouée, entre autres, elle nous raconte son enfance dans les années 80, ses amourettes intenses d'adolescence avec énormément beaucoup trop d'hormones dans la pièce. C'est un album qui sent le spray net et qui est éminemment sympathique.
Alors ça, c'est la deuxième sélection. La troisième, en fait, c'est Conan le Cimérien, le tome 13. Probablement Édouard Tremblay, le plus lovecraftien des récits de Conan le Barbare.
Conan, ai-je besoin d'en dire plus? Voilà. Non, blague à part, je dois l'avouer, j'ai passé, écoute, un été howardien. Je me suis relancé dans les nouvelles en anglais en lisant en parallèle les BD ponctués, tout ça, des films et de la trame sonore. Écoute, je me suis replongé comme un fou dans cet univers-là qui, évidemment, m'accompagne comme ça depuis que je suis très très petit, enfin beaucoup trop petit pour être initié à cet univers-là, mais néanmoins qui m'avait complètement, complètement marqué. Et ben justement, cette série, entre autres d'adaptation de Conan le Cimérien, bon, qui est chapeautée, on le sait, par Patrice Louinet, qui est comme le grand, un grand retraducteur justement de toute l'œuvre howardienne, a cet extraordinaire bénéfice d'être justement tout un mode d'expression très varié, parce qu'à chaque album, on a comme ça différents auteurs, différents dessinateurs. Et dans Xutal, la crépusculaire, il y avait, je pense, cette approche assez, justement, de palette, assez réduite, vecteur d'une ambiance qui sert très, très bien l'histoire, où, justement, bon, on a Conan en compagnie d'une esclave en fuite, en fait, qui l'a racheté comme ça dans un bazar, qui s'appelle Natala. Et après, les ocres et puis la chaleur comme ça du désert, ils vont trouver refuge, en fait, dans une espèce de cité perdue, la cité de Xutal, où là, tout se déroule comme ça, en huis clos, dans l'ombre, dans la noirceur. Donc, une de ces, une de ces très, très belles nouvelles qui a été adaptée, et une des plus, en effet, aussi Lovecraftienne, on aura assurément l'occasion d'y revenir.
Et vous aurez compris, donc, par processus d'élimination, que de mon côté, j'ai choisi le Matteo Berton, donc ce Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Un autre album, enfin, un peu comme Marco avec son Glengarge, qui est un peu passé inaperçu, j'ai l'impression, lors de sa sortie. Un objet qui, déjà pour la couverture, et déjà quand on le parcourt, je trouve, frappe un peu par son approche visuelle. C'est lui qui m'a un peu inspiré le thème aussi, il faut dire, chercher une façon de le plugger également. Donc, il fonctionne avec à peu près 5 couleurs, en fait, donc des bleus, bruns, blancs, essentiellement un peu de gris aussi. Et il nous raconte, donc, une version de cette descente au centre de la Terre, donc un des récits les plus emblématiques de Verne. Alors, évidemment, on pourra dire que d'un point de vue scénaristique, bien évidemment, ça reste le récit de Jules Verne, donc à l'égal d'autres adaptations qu'il y a eu et qui viendront. Mais d'un point de vue visuel, on a vraiment une approche graphique assumée, une approche presque design aussi selon les pages. Et pour moi, c'est ce travail-là qui m'avait vraiment séduit à l'intérieur de l'album et qui m'avait fait sentir un peu coupable de n'en avoir jamais vraiment parlé en dehors d'une critique fugace au fil de l'émission. Alors, je le remets un peu à l'ordre du jour avec le commentaire d'aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion de croiser, je pense, n'importe quel de ces albums-là en librairie, vous pourrez les feuilleter pour voir aussi peut-être et comprendre la nature des discussions qu'on aura, à tout le moins sur le style, mais il faudra les lire également pour tomber avec nous vers l'art du scénario. Alors, c'est un peu le moment de l'émission, donc ça fait 12 minutes qu'on jase. Des BD, maintenant, c'est le temps d'en parler, d'en débattre, de s'arracher la chemise et de faire des liens subtils mais efficaces. Alors, c'est le moment où je pense, en fait, il y a une tradition qui s'est installée. Je pense littéralement au premier club de lecture et qui n'a jamais été discuté par ailleurs. En fait, c'est comme Édouard qui a décidé que lui faisait les transitions. Et je pense qu'à un certain point, à part une faible tentative d'un collègue au fil des années, on a comme assumé qu'Édouard était le mieux placé pour bien transitionner et pour bien amorcer le récit. Alors, quand quelque chose n'est pas brisé, pourquoi le réparer? Alors, Édouard Tremblay, je pense pour une énième saison, je n'ai pas compté le nombre de clubs de lecture qu'on a fait, mais je te donnerai le mérite donc de nous lancer vers cette discussion et de nous guider tout au fil de l'émission.
Eh bien, allons-y, hein, chers amis. Écoutez, la palette réduite, quand même un choix intéressant de thèmes, parce que, aussi bien que, justement, qu'une bande dessinée qui va être en noir et blanc, ou une BD qui va se rabattre, par exemple, sur la monochromie, comme des gars comme Riff Raves, par exemple, ou des choses comme ça, il y a un choix, au-delà, peut-être, oui, du défi, ou bon, peut-être du budget, parce qu'on n'a pas le budget pour plus de couleurs, mais non, je pense qu'au-delà de ça, il y a, justement, hein, dans ces choix de palette réduite-là, une volonté qui est claire, un auteur, un BDiste qui veut nous conférer une ambiance, qui veut nous instaurer quelque chose, un message qu'il a à passer,
qui n'est pas nécessairement toujours non plus, je veux dire, corollaire d'un dessin qui est épuré, bien que ce soit aussi souvent le cas parce que l'un dessert bien l'autre. Et donc, dans cette perspective-là, moi, je me disais, allons-y déjà hein, avec celui qui est peut-être le plus épuré, donc celui, le diptyque comme ça, de Catherine Lepage-Boué. Que je vois bien avouer, hein, bon, en première vue, bon, je regardais un peu le dessin, je regardais un peu justement les couleurs fluo, et bon, étant un gars de mon âge, j'ai eu de traumatismes d'enfance avec le fluo, hein, et je me disais, je sais pas si... Et pourtant, écoutez, j'ai eu un plaisir fou avec ça, fort probablement, je le cacherai pas, parce que, visiblement, moi et Madame Lepage, on doit avoir à peu près dans les mêmes âges. Écoutez, ça a été mon secondaire, mais je veux dire, ça a été mon secondaire bord en bord, je veux dire, justement, le fluo, le spray net, les gangs de métalleux, c'est vraiment comme un choc de retour, là, 20-30 ans en arrière, c'est absolument, ça m'a complètement emballé pour ça, finalement, j'ai été beaucoup, beaucoup de plaisir.
Et c'est ce genre de concept, en fait, qui, quand on le voit arriver, on se dit, ça marchera pas. Mais finalement, ben je veux dire, en fait, sur papier, là, c'est quand tu lis, tu dis, on te dit, OK, je vais mettre un album en rose et blanc. Je veux dire, en rose fluo et blanc. Tu dis, comment ça peut marcher? Et tu lis l'album et rendu, et ça prend pas beaucoup de temps pour comprendre que ça marche. Après une planche, après deux planches, tu dis, mon Dieu, je n'imaginerais pas cet album-là autrement. Et quelque chose qui, sur papier, n'a pas de sens, finalement, fonctionne de façon parfaitement organique, de façon viscérale, pour nous amener et nous rappeler, nous imprégner de cette ambiance des années 80, de cette ambiance phosphorescente et de cet esprit de l'époque.
Ça, et c'est par la façon de le raconter. Là, ici, il faut mentionner que les deux albums, si je me rappelle bien le volet, les albums n'ont pas de cases. La page est blanche et il y a des personnages colorés qui apparaissent et on lit de haut en bas, pour la plupart de tout l'album. Et ceux-ci sont comme des taches avec la couleur. La couleur ne prend pas tout le dessin, la couleur fait une tache. C'est comme des flashbacks de la mémoire de l'auteur des années 80. C'est comme, quand on a un flashback, c'est ça illumine. Et on a le flashback, et tout ça fait en sorte que cette narration-là fonctionne, mais merveilleusement bien, de cette façon-là. Tu sais, elle a pris le temps, elle a pris le temps de maîtriser ça, parce que ces deux albums-là sont comme en continuité, mais sont pareils, et ils fonctionnent de la même façon, et ils fonctionnent très bien de cette façon-là. C'est comme une lanterne qu'on mettrait derrière et qui ferait jaillir le dessin comme un flashback. Pareil. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné.
Avec des personnages qui sont charismatiques. En fait, l'héroïne, au départ, qui est un peu l'avatar de la petite Catherine, si on pourrait dire. Et dans le premier, Boué, en fait, qu'on est clairement dans un parcours, un cadre de soie, au bout du compte, qui est rythmé et ponctué par les chevelures, par les coupes de cheveux, par la volonté de s'identifier à tel groupe, de faire partie de tel groupe, d'avoir un chum, d'exister aux yeux des autres, qui est super bien rendu. Et avec son trait... Et avec son choix de couleur, elle rend ses personnages charismatiques, je trouve, et elle les rend mémorables, et elle se rend mémorable aussi à travers son avatar.
Ben oui, effectivement, l'autofiction est parfaitement assumée. Le personnage s'appelle Catherine. Elle va même s'excuser à ses parents, je pense, dans le deuxième. Elle dit « Oui, bon, je vous ai un peu caricaturé, là, je suis vraiment désolée, c'est pour les besoins de l'histoire. » Puis on nous la rend sympathique aussi, la manière dont elle est dessinée avec ses grands yeux, puis dans sa grande naïveté aussi d'embouée, où est-ce qu'elle voudrait donc bien se trouver un chum, puis là, ben... Tous les gars de son entourage sont des prospects potentiels, puis bon, elle va s'imaginer des grandes amourettes avec eux. Mais côté découpage, où est-ce qu'on n'a pas de contour de case, on n'a pas de contour de bulle non plus. Je sais pas pour vous si ça vous avait rappelé Les Rigoles de Brecht Evans.
Ah oui.
Ah oh. Oh, oui, dit Marco. Où est-ce qu'on avait, on avait un style... beaucoup plus chargé, mais on avait beaucoup de taches de couleurs, on avait un petit peu des bouts de dialogue qui allaient un petit peu s'inviter dans la case, un peu n'importe comment. C'était le récit d'une soirée dans les bars à Paris, si je me rappelle bien, puis nos personnages allaient se promener de bar en bar, donc tout est très bruyant, tout est très chargé. Dans Catherine Lepage, ça va être beaucoup plus épuré, souvent ça va être deux, trois personnages, quelques éléments de décor, et c'est tout.
Ben, épuré aussi, parce que évidemment ça ramène à elle comme j'ai l'impression, comme un journal intime aussi, c'est comme justement quelqu'un, un ado qui tient son journal intime, puis bon, c'est des journées importantes comme ça, ben il va décorer la page un peu, il va rajouter de la couleur, il va rajouter peut-être des dessins, il va rajouter, parce que là c'est important, puis là évidemment, ben, tu sais, on a tout, comme on disait, ces changements de chevelure qui sont bien importants, qui vont marquer un changement d'identité. Et c'est ce que je pense, que ce que Raymond soulignait et que je trouvais fort intéressant, justement cette quête d'identité là qui est inévitable, je veux dire, c'est ce qu'on vit à 14, 15, 16 ans, et qui m'a frappé, parce qu'encore une fois, et c'est tellement ça, cette espèce de dichotomie extraordinaire, parce que là, tu sais, on a des gangs de western, on a les gangs de métalleux, on a des gangs qui sont, donc, par définition, marginales, mais auquel, pour s'inclure, il faut se conformer peut-être à son corps défendant, qu'on trippe ou non là-dessus. Donc, même être marginal, dans le fond, présuppose une certaine rentrée dans le moule, une certaine convention de ce qu'on est. Et donc, c'est vraiment cet aspect, je veux dire, très intime, que je trouve qu'on a dans le page, qui vraiment donnait pour moi cette impression de journal, de vraiment rentrer comme, tu sais, quand des fois on retombe, par exemple, justement dans nos vieux cahiers ou les trucs qu'on avait quand on était petit, on dit, ah ouais, tu sais, justement, je racontais ces trucs-là et tout. C'est vraiment cette ambiance-là, ce feeling-là, et l'épuration des couleurs va, je pense, dans cette direction-là aussi.
Oui, en fait, j'ai pris le micro justement pour appuyer un peu ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a deux éléments qui sont sortis de ce qu'Émilie et de ce que tu as dit, Édouard. Premier élément, le côté journal. Dans le fond, si on avait une multiplicité de couleurs, si c'était pas dessiné au fluo, au crayon rose fluo, on dirait qu'on perdrait un peu l'idée que, ben, justement, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être dessiné dans un coin de page. Donc, d'avoir une ambiance journal intime qui en ressort de façon particulière. Et en parallèle, j'ai l'impression que parce qu'on a fait un choix qui est, si je sors un peu mon latin, qui est bold, on ose quand même, mais on peut s'épargner le côté décor, parce que la couleur est le décor, parce que la couleur est l'ambiance, parce que la couleur porte vraiment un esprit nostalgique qui fonctionne à la fois pour des gens du même âge que Catherine ou de générations similaires, donc des Édouard, des Raymond, des Marco, ou des plus jeunes qui ont peut-être connu les années 80 par procuration, parce que c'est revenu à la mode, parce que des séries, parce que, dans le fond, le côté identité visuelle des années 80 est quand même quelque chose de très ancré. Parce que ça me fait penser, parce que je disais quelque chose il n'y a pas longtemps, où on était capable justement de définir comment ça vient des années 50, des années 60, des années 70, des années 80, des années 90. On dirait qu'à partir des années 2000, tout le monde s'habille de la même façon pendant 23 ans, puis il n'y a plus l'approche par décennie, ou peut-être un peu moins, ou peut-être que c'est un peu vieux. Mais je trouve que le choix de couleur, justement, amène, est porteur de ce côté-là. Et je reviens un peu à mon intervention initiale, mais ça marcherait moins bien si Catherine Lepage avait fait un album qui était plus, entre guillemets, de facture classique dans le choix de couleur, de facture classique dans la mise en page. Et au final, ben, elle nous avait habitués à des produits quand même visuellement assez audacieux, avec ses albums d'illustration, dans le fond, donc sur la dépression ou sur les animaux et autres. Et donc, en fait, elle poursuit un peu aussi dans une démarche qui est esthétique, je trouve, de la bande dessinée, avec des choix audacieux, comme celui qu'elle a fait avec ces deux albums-là et qui, au final, fonctionne de belle façon. Et je regarde Émilie qui se saisit du micro de son côté.
Oui, ben justement, c'est intéressant que tu mentionnes ces autres projets parce que, bon, Catherine Lepage, je ne sais pas à quel point vous avez été saisie par son style, par la bichromie, les personnages aux grands yeux et tout. Moi, la première fois que je l'avais croisée, c'était justement dans un album jeunesse. Ça s'appelait La tragique histoire de Pépito. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'était une espèce de conte cruel avec un enfant piñata. C'était complètement éclaté comme atmosphère. Puis on retrouvait le même style qui est très personnel, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Puis, c'est drôle parce que des fois, on a l'illustratrice Valérie Boivin qui passe ici, qui fait aussi de l'album jeunesse. Elle avait fait une bande dessinée. Puis, il nous arrive de regarder des albums jeunesse ensemble, de regarder l'illustration d'autres personnes. Un de nos derniers, c'était l'histoire d'Henri, qui est aussi un album de Catherine Lepage. Puis, ça a une espèce d'aspect de papier découpé. Encore une fois, c'est dans des couleurs très, très, très fluo. Puis, bon, Valérie Boivin racontait... Oh mon Dieu, ça m'angoisse tellement. Je dessinerais tellement pas comme ça. Regarde, il y a comme un petit bout qui dépasse ici, là, un petit bout de papier qui est comme pas découpé exactement de la bonne façon. J'aurais jamais laissé passer ça. Donc, félicitations à Catherine d'assumer autant son style.
Oui, puis en fait, c'est ce qu'on dirait aussi. Il faut avoir une capacité, je pense, d'assumer l'imperfection et de voir que l'imperfection va renforcer aussi certains aspects esthétiques du style parce qu'elle fait le choix de... ces imperfections-là, comme elle fait le choix des couleurs, comme elle fait le choix d'une simplicité, d'un aspect un peu minimaliste, mais c'est pas facile de bien faire du minimalisme non plus.
Mm-hmm. D'une nostalgie à l'autre, je me dis aussi, tu sais, allons tranquillement vers, parce que là, on s'est plongé, comme je disais, plus un peu dans mon adolescence, mon celle de Raymond, tu sais, remontons aussi, tu sais, à celle de Marco, c'est-à-dire, bon, le début du 19e siècle, alors que, on traditionne...
J'étais plus gentil, je l'avais pseudo-intégré, la génération, mais le chat est sorti du sang.
Alors qu'on transitionne comme ça vers voyage au centre de la Terre, cette grande... cette adaptation qui m'a marqué, je dirais, dans justement ce que le 19e siècle, je pense, avait à offrir, et donc j'ai eu bon la nostalgie, même si évidemment moi je n'ai pas vécu cette époque-là comme Marco, de ce monde inconnu où tout était encore à découvrir, où tu sais, la science émergeait, les grands savoirs émergeaient, mais encore là, d'une manière fragmentaire, incertaine, où on avançait justement avec des visionnaires comme Verne qui pouvaient se permettre de délirer comme ça sur des voyages dans la Lune ou au cœur de la Terre. Et cet inconnu qu'on a rendu ici, je pense, d'une manière très élégante, parce que justement, avec cette palette-là, on a justement bon, la Terre, l'eau, hein, parce que bon, c'est tout un paquet de paysages qu'on va croiser, mais qui sont exactement dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons que nos protagonistes. Et, en tout cas pour moi, c'est peut-être moi qui rentre dans un symbolisme exacerbé, mais pour moi c'était important parce que justement les gens s'effacent dans la grandeur et l'inconnu de cette quête-là. Parce qu'on a la même couleur, parce qu'on se fond littéralement dans ces espèces de décors, en prisme, en eau, justement, qui a la même couleur que les lunettes, du type et tout. Comme je dis, c'est peut-être moi qui ai vu des symboles ou les BDs ne voulaient pas en mettre, mais ça m'a tout de suite évoqué cette ambiance-là, cet inconnu, ces grands espaces où on avance comme ça, dans l'incertain, dans un monde qu'on commence à peine à comprendre, en fait.
Juste pour revenir sur ce qu'Edouard disait, moi, je trouvais ça intéressant que tu parles justement du dynamisme de la science puis de l'exploration, puis la manière dont on le ressent le plus dans Voyage au centre de la Terre. Moi, j'avais jamais lu le roman avant de lire la bande dessinée, donc j'avais aucune idée de comment ça allait se terminer, mais à mesure qu'on fait cette progression-là dans les souterrains, on descend très, très, très longtemps, il y a même un épisode où est-ce que le personnage est plongé dans le noir complet, puis à ce moment-là, la seule mesure qu'on a de la distance qu'on parcourt, c'est ce qu'on arrive à mesurer avec les instruments. Ah oui, bon, on a dû faire 24 allers-retours de cordes, donc probablement qu'on est à tant de mille. C'est extrêmement anxiogène, c'est extrêmement fascinant aussi de voir qu'on ait pu faire autant de découvertes ou se rendre aussi loin avec autant de moyens analogiques.
Et j'ai l'impression, en fait, pour moi, ce qui m'avait séduit dans cet album-là, côté couleur, c'est justement, tu sais, quand on démarre, ben, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de bleu, on est en Islande, même si on nous dit, ben, dans le texte un peu, ben, regardez, tout ce qu'il y a d'intérêt en Islande, c'est ce qu'il y a en dessous, et on nous amène rapidement vers le bas, et tranquillement, ben, on voit justement le blanc et le bleu, dans le fond, disparaître. Et là, tranquillement, dans le fond, on se retrouve dans un environnement brun, noir, beige, assez sombre. Et là, éventuellement, on nous amène sur la question de l'eau, sur l'enjeu, justement, de, ben, OK, on a prévu pour un certain nombre de jours pour boire. Et là, oups, on trouve Landsback, on trouve ce petit cours d'eau qui va nous accompagner jusqu'au centre de la Terre. Et là, oups, le bleu rejaillit. Donc, dans des moments comme ça, où la couleur devient un peu un élément scénaristique que je trouve très intéressant. Donc, il y a quelque chose qui en ressort. Ou dans d'autres séquences aussi, là, je pense à la salle des cristaux, où là, on voit vraiment toute l'ampleur, la richesse de ce choix visuel-là que Matteo Berton va faire avec son adaptation du Verne.
Non, mais non seulement la couleur, mais aussi la taille des cases, parce que pendant la descente, la page est remplie de toutes petites cases qui sont très rapprochées, très sombres, avec juste les personnages au centre qui font la même chose que depuis le début de la descente, c'est-à-dire descendre le long d'une corde, récupérer la corde et continuer plus loin. Puis, lorsqu'on arrive justement à la salle des cristaux, il y a une espèce de forêt et de mer intérieure. On a une illustration pleine page, tout est grandiose, on ouvre la perspective de chat. Donc ça aussi, ça vient jouer sur le même effet d'étonnement que les personnages.
Oui, mais au-delà de la couleur, et tu as abordé la notion de narration, cette fameuse première descente dans le sous-sol, l'auteur y a mis une pleine page de cette descente-là, du même décor. Il l'a découpé, chaque case, et les explorateurs descendent, mais en diagonale. Ils ne sont que sur les cases qui forment une diagonale jusque vers le bas. Vers le bas. C'est déjà là, on a la gravité, on a la façon dont c'est fait, on sent la gravité, on sent la façon de comme si on y était. Mais tout du long, j'ai pas lu le roman de Jules Verne, mais dès le départ, je pense qu'on essaie de faire fonctionner ça comme un documentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'auteur, on placote, on met sur plan qu'est-ce qu'on veut faire, mais arrive le moment où on se dit, bon, ben, on va partir, ça va nous prendre du matériel. Et là, on a une pleine page de description de matériel. Mais si vous tournez les pages et qu'on est prêt à y aller, il y a une pleine page de petites cases qui nous montrent que les chevaux, le matériel est sur les chevaux, tout le matériel est casé par rapport là où il devrait être pour le voyage. C'est un putain de documentaire. Et ça fonctionne tout du long comme ça, je pense. Ces grandes cases qui nous montrent le paysage, qui nous montrent les trucs, jusqu'au moment où on entre dans le sous-sol et que là, on a des conversations entre les explorateurs et ces conversations-là sont purement scientifiques et tout. Là. Je pense qu'à ce niveau-là, cette BD fonctionne comme un documentaire.
Et pour moi, en fait, c'est que ça allait. Ces pages-là vont vraiment chercher l'esprit de Verne sur page, dans la mesure où, pour ceux qui ont lu les livres, dans le fond, il y a littéralement des fois des chapitres ou des pages où c'est juste un inventaire d'équipement, un inventaire de substances, une description scientifique. Et je trouve que Berton a eu une façon visuelle d'adapter ces éléments-là qui nous amènent en termes textuels, dans une autre littérature. Je me rappelle des pages en 20 milieux sous les mers, c'est des inventaires de poissons qu'on retrouve dans cet océan-là. Donc, comment les reproduire, puis comment capter, puis capturer cet esprit documentaire dont tu parles. Et donc, visiblement, ça percole, ça marche.
Là. Ah oui.
Et on a dans cette BD-là, et je pense que c'est d'autant plus important, parce que justement, là, on est dans une expédition, on est dans un voyage, on a dans notre processus narratif cette sensation constante de progression. Et d'autant plus de progression, mais dans des directions, justement, que ce soit le haut, que ce soit le bas, que ce soit vers l'est, et on le sent. Et je fais référence à ça, à Tintin en Amérique, où on a cette page où ils sont sous terre, et Tintin et Milou se dirigent en dessous de ça. Et je me souviens, quand on est allé voir l'expo sur Hergé, c'était une page que lui avait repris. Parce que justement, à un moment donné, il s'était rendu compte que Tintin n'allait pas dans la bonne direction. Et qu'il y avait, il perdait la logique de ces cases et la logique de cette progression. Et c'est vraiment, dans ce cas-là, je pense, impeccable, parce que justement, tout du long, on a cette sensation de progression-là, que ce soit, comme je disais, en s'enfonçant ou en remontant ou en allant très rapidement sur les cours d'eau qui dévalent, sur la mer qui dévale. Quelle belle maîtrise de la succession narrative. Et parlant de maîtrise de succession narrative, évidemment, Glenn Gange, je pense qu'on utilise là à peu près tous les procédés narratifs qui font qu'une BD peut être extraordinaire, peut être plus que la somme de ce qu'elle est, dans le fond, en jouant justement avec le décalage des pages, avec le, je veux dire, il y a tellement de procédés narratifs, je vous en ferai pas le catalogue parce que ça serait beaucoup trop long, mais au-delà de ça aussi, et comme Marco, je l'avoue, moi, je fais beaucoup d'insomnie. Je veux dire, n'importe qui, je pense, et c'est clair que le gars fait de l'insomnie, je veux dire, c'est le processus mental de quelqu'un qui fait de l'insomnie, des trucs les plus ridicules, détails triviaux du quotidien jusqu'à la raison de ce pourquoi on est parmi... Écoute, c'est
oui,
tellement ça.
Et cette découverte-là, moi, je l'attribue à la première petite histoire. Évidemment, c'est toute une journée, c'est un samedi, Glenn Gange va à la bibliothèque en vélo. Et non, il est à pied. Et à un moment donné, et la première nouvelle établit le truc, on est dans sa tête, il se parle. Et là, sa pensée est en continu, elle n'est pas toujours logique, il fait du coq à l'âne et tout. Et à un moment donné, il y a, oui, mais il fait un retour, et là, il réfléchit sur le passé, présent, futur. Et là, au fur et à mesure qu'il réfléchit sur cet instant-là, ah oui, mais j'ai déjà, et je vais peut-être dans le futur. Et là, il joue avec les cases en les rétrécissant, en les élargissant et tout. Et à chaque fois qu'il va faire un exercice comme ça dans les autres histoires, il va adapter la narration de la BD à ce qu'il est en train de... à un moment donné, dans cette insomnie-là, la nuit, là, il parcourt... Là c'est... On est dans le macro, il se voit dormir au-dessus de lui avec les yeux, il rentre dans les yeux, et là les cases sont énormes et tout. À chaque fois, il va vraiment adapter son récit par rapport à ce que son personnage est en train de réfléchir.
J'ai l'impression qu'il y a deux façons de lire un peu cette bande dessinée-là. La première, c'est un peu celle qui m'a été imposée, c'est... en fait, de mon côté, j'ai pas tendance à faire de recherche ou à écouter une émission de radio. Comme j'en anime une, je me dis, j'essaie de me lancer à tout loin pour la première lecture à vide. Dans le fond, je lis rien avant, je plonge dans la BD. Et sincèrement, après la première histoire, dans le fond, ça prend... Les premières planches sont un peu ordinaires. Je me dis, OK, on est dans un type autobio, classique, vie quotidienne, un peu ordinaire, mais sympathique. T'sais, le héros, il y a quelque chose. Et là, tranquillement, tu arrives justement avec cette page-là, avec cette séquence-là du vélo qui arrive quand même assez rapidement dans l'histoire. Et là, oups, c'est comme un décalage. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire exactement? Et là, tu penses que tu comprends ce que tu es en train de lire jusqu'à temps qu'il se fasse licencier, jusqu'à temps qu'on aille jusqu'au bout de cette insomnie-là. Et là, tu te rends compte que faut pas que tu t'arrêtes à essayer de comprendre ce que tu es en train de lire, parce que ce que l'auteur nous propose, c'est littéralement une expérience avec une série de procédés. On parlait de procédés narratifs, mais on pourrait parler de procédés visuels, avec des séquences qui sont particulièrement oniriques, avec des trucs qui sont réalistes, avec des pages qui sortent des pages qu'on nous joue de côté, avec une succession d'ambiances qui sont liées un peu par le trait, qui est quand même relativement simple, par la couleur, en fait, qui est en bichromie, donc noir-blanc, avec un peu de bleu. Donc, il nous ramène un peu à une ambiance nocturne, une ambiance de calme, de nuit, une douceur, si on peut dire, qui en ressort, parce que... au bout du compte, ce récit sans violence, c'est des cauchemars sans violence, c'est des rêves sans violence. Et c'est un flot de souvenirs, le terme est bien choisi. Et la deuxième hypothèse de lecture, celle que justement, c'est que tu feuillettes un peu en librairie avant d'acheter, et là tu te rends compte que tu vas t'en aller à quelque part d'extrêmement particulier, et tu commences l'album en sachant où ça s'en va. Là, il y a une attente de cette expérience-là qui se prépare. Donc, je ne sais pas laquelle des deux j'aurais préféré, parce qu'on dirait que je tapais du pied un peu dans les trois premières planches, je me disais où ça s'en va, puis là, oups, tu tombes dedans, tu penses que tu trouves, puis tu retombes.
C'est
extraordinaire.
Il joue sur les deux tableaux, genre l'onirisme et le quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas juste cette nuit d'insomnie où il s'empêche de se lever pour ne pas réveiller Wendy, sa femme, et il observe dormir, la respiration, quand elle tombe en temps monde, il y a toujours cette respiration-là parce qu'il écoute. Puis, on l'entend. Et là, lui, il n'y a pas juste ça, le truc. Il y a aussi, il se lève, il essaie des trucs, il met de la musique, il met les écouteurs à Wendy, sa femme, pour pas qu'elle entende. Et là, il monte le son, puis il essaie de passer cette nuit-là avec des choses, à lire, à faire des trucs. Mais on l'a, tu sais, tu dors pas, là. Qui de nous n'a pas dormi une nuit, a pas décidé, bon, je vais essayer de faire de quoi. Ah ouais, j'adore la musique. Et je la mets trop forte, des fois. Et là, ce qui fait que il y a aussi ça qui est bien raconté, mais qui il utilise pas, c'est pas obsessif dans sa façon de raconter. Elle est toute simple, elle est avec beaucoup d'humour. Mais par contre, effectivement, quand arrive le temps du grand voyage introspectif, et surtout avec le truc du jeu vidéo, parce qu'il a travaillé sur des jeux vidéo à la première personne, puis on nous le montre beaucoup, qu'il travaille là-dessus et tout, puis à un moment donné, il ne voit que ça. Puis là, le personnage a un gun, puis il se promène. Il ne voit que ça. Alors, tu sais, toutes ces obsessions-là qu'on a quand on arrive à une nuit d'insomnie, qui nous apparaissent, là, sont vraiment bien transmises. Et ce qui m'a impressionné, c'est vraiment le truc de pensée continue du cerveau. C'est tellement réussi. Il y avait James Joyce avait réussi avec Ulysse. Puis c'est pas facile à faire, puis c'est pas facile à en rentrer dedans, mais lui a parfaitement réussi.
Attends, j'avais un truc genre super intelligent à dire, mais je l'ai perdu.
C'est toi.
Non, mais moi, en fait, ce qui donnait beaucoup l'effet d'insomnie, je trouve, c'est surtout la longueur de la bande dessinée. On est piégé dans cette espèce de nuit qui n'en finit plus. Puis ce qui vient le plus cristalliser cette espèce d'angoisse-là, ça arrive un petit peu plus vers la fin. Le personnage se demande, mais voyons, il est rendu quelle heure? Puis on a le cadran qui est sur le dessus de son bureau. Puis bon, dans le dessin, on voit comme pas trop, il y a quelques petits points de bleu qui sont supposés donner l'heure, mais on n'arrive pas à la lire. Puis il se lève pas pour regarder, donc on sait toujours pas quelle heure il est. Puis ça revient peut-être 20 pages plus loin, puis il se dit, ah ouais, non, faudrait vraiment que je regarde quelle heure qui est rendue. Puis on a le cadran, on le voit d'un peu plus proche, mais volontairement, les traits bleus n'indiquent rien qui a du sens. Puis on est piégé dans cette espèce d'insomnie-là avec lui. Puis bon, on a un petit peu la même impatience aussi, je pense, d'arriver au bout de cette nuit-là qui finit pas.
Et en termes de construction de personnage, je veux dire, quel procédé extraordinaire pour nous faire découvrir quelqu'un à une étape charnière. Je veux dire, c'est un moment où il se remet en question, où il est arrivé des choses qui forcent un peu une remise en question. Mais, je veux dire, en l'espace d'une nuit, puis en exploitant un peu ses insomnies, en exploitant ses pensées, on arrive à vraiment comprendre ce personnage-là. Donc, en termes d'études de personnage, il y a une grande richesse là-dedans. Et dans le contexte où aussi, oui, il y a des éléments qui sont récurrents, qu'on répète, mais on n'est pas dans la répétition des procédés non plus. C'est pas redondant. Donc, ce qui fait qu'on est toujours surpris, puis je reviens un peu à l'image que j'avais, c'est tu comprends le récit, on t'amène ailleurs. Une fois que tu as compris, on t'amène un peu plus loin. On t'amène toujours un peu plus loin. Et ce qui fait qu'en termes de lecture, on est toujours un peu en danger, j'aurais envie de dire.
Mais puis on glisse aussi très, très naturellement d'un récit à un autre. On n'a pas l'impression que c'est forcé non plus.
C'est tout à la grâce, je pense, de Weaves, de cette fluidité, cette finesse, cette intelligence qu'il y a dans ce récit-là. Et encore une fois, comme je l'évoquais, je pense pour le page, cette authenticité, parce que ça aussi, je te garantis, on la regarde pas l'heure, on ne veut pas la regarder l'heure. Quand on fait de l'insomnie, on ne veut surtout pas la regarder. Et moi, c'est une BD qui m'a fait profondément peur, mais vraiment effrayé par justement cette conscience de ta place dans le monde, quand tu commences à réfléchir à tout ça, qu'il voit, bon, sa blonde dormir, qu'il l'écoute dormir, puis ah, tu sais, comment elle est précieuse pour moi, puis comment je pourrais, puis là, tu te mets à réfléchir à comment, tu sais, ton partenaire de vie, et c'est vrai qu'il est précieux pour toi, puis là, tout d'un coup, sa place dans le monde, puis là, je me mettais à me demander, ah, ouais, en même temps, tu sais, t'as toutes les considérations minuscules de la vie et toutes les grandes considérations philosophiques de ta place, et là, tu commences à te demander lesquelles qui sont les plus valides. Je perds-tu mon temps avec les trivialités de la journée et du travail parce que de toute façon, l'absolu, ça sert à rien. Ou je perds mon temps à réfléchir à l'absolu parce que de toute façon, je viens qu'un être humain dans la trivialité de son travail. Puis j'ai eu peur avec cette maudite BD-là. Écoutez, non, mais je vous dis, ça m'a foutu l'angoisse.
Alors que normalement, tu sais, quand on parle d'angoisse, hein, on parle Lovecraft. Et le fait est que... Bon, ça m'amène vers Howard, bien sûr, vers Conan. Parce que effectivement, Xutal, qui est justement bon, la BD, mais aussi la nouvelle aussi de Xutal, la crépusculaire, est quelque chose qui est en fait assez dense, pourtant dans ce que ça raconte, mais dans ce que ça présente. Parce qu'on a là la jonction d'un paquet d'aspects et, je dirais, de contre-aspects de ce qu'était Howard. Howard, d'emblée, oui, c'était un correspondant hein, de H.P. Lovecraft. Les deux étaient bons amis comme ça. Et autant que Howard avait un intérêt et aimait à participer à la mythologie de Lovecraft, autant en même temps, et je pense que c'est peut-être un clin d'œil qu'il faisait là-dedans aussi, les deux se sont toujours opposés sur un principe de base. C'est-à-dire que pour Lovecraft, la civilisation est ce qui sortait l'homme de sa barbarie, de sa condition et tout, alors que pour Howard, c'était une source de déchéance. Et que c'est la barbarie, dans le fond, qui sauvait, qui était la vraie nature des gens. Donc, on se retrouve avec cet aspect-là, qui est très, comme je disais, howardien, qui est très naturel. Mais en même temps, on a aussi les besoins d'un gars qui doit, tu sais, comme publier des nouvelles. Parce que, notamment la façon dont Natala est exposée un peu, bon, c'est côté, du moins, très sensuel et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Howard, contrairement à ce qu'on pourrait croire à un Texan, tu sais, des années 30, c'était un gars qui était très progressiste, qui était très féministe. Et qui dénonçait même dans des lettres, dans ses correspondances, le patriarcat. Mais, comme il publiait dans Weird Tales, pour faire les couvertures de Weird Tales avec une de tes nouvelles, ça prenait pas mal toujours une jeune femme dévêtue dans une situation. Sinon, tu pouvais être publié, mais tu faisais pas la couverture.
Et j'ai l'impression, Edouard, en fait, que cette BD-là, Conan le Cimérien, donc le tome 13 de la série, on peut la lire trois fois et de trois façons différentes. En fond, dans un premier temps, on se retrouve, dans tous les cas avec un récit, d'ailleurs, les Noirs, parenthèse non reliée, les Noirs sont vraiment ensemble, l'ancrage est très intense. À un moment donné, Conan, il a presque l'air d'un ours, on voit peu son expression, elle reste, donc c'est l'animalité qui est là. Mais on peut voir cet élément-là à travers un récit d'Heroic Fantasy. On peut choisir de relire parce que tranquillement, l'épouvante arrive. Et on parlait du récit le plus Lovecraftien parce que Xutal, c'est un monstre Lovecraftien, donc qui émerge un peu en cours de récit, et donc on se retrouve dans un récit qu'on peut percevoir comme un récit d'épouvante, mais le troisième élément, c'est justement cette sensualité-là, Xutal, ces tentacules qui ressemblent peut-être un peu à des membres aussi.
En fait, excuse-moi, je te coupe tout de suite, Tog, la cité, oui, Tog, s'appelle Xutal, la créature s'appelle Tog, désolé.
Il n'y a pas beaucoup de textes en BD, mais cette fois, j'ai réussi à échapper un. Mais donc, Tog, qui peut être perçu aussi, justement, comme une entité sexuelle rattachée à la cité, justement, à la débauche qu'il y avait là-dedans. Et donc, avec les femmes, avec des séquences qui sont aussi avec le fouet, des trucs comme ça, où on joue avec l'attraction, où il y a un triangle d'attraction plus que d'amour aussi qu'on retrouve là-dedans. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un récit érotique aussi, un peu à travers ça, qui est aussi parfaitement assumé. Je pense que les trois récits était parfaitement assumé par Howard au départ. Et dans son scénario et dans le dessin, cette BD-là assume aussi ces choix-là. Et même les époques ayant changé, la nouvelle a quand même été publiée en 1933, mais presque 100 ans plus tard, les mentalités permettent d'aller peut-être un peu plus loin dans la sensualité, un peu plus loin dans l'épouvante, un peu plus loin dans le côté fantasy ou dans l'esthétisation de ce côté-là.
Ce qui, en fait... À la lecture de ça, j'ai trouvé, bon, Marvel avait fait toute une série des séries avec Conan et tout. Là, on nous dit que c'est repris des nouvelles. Mais moi, à la lecture de ça, ça m'a beaucoup fait penser au premier film avec Arnold Schwarzenegger puis tout ça. Parce que, en fait, cet album de BD, l'aventure qu'on y décrit nous est narrée. Elle n'est pas vécue, là, dans le sens que il y a peut-être deux, trois conversations dans des situations, mais je veux dire, il faut les chercher, là. Le truc est tout narré, tu sais, en voix off. Tu sais, et c'est fascinant comment ça marche et dans un univers dans lequel on vit. Ça ne devrait pas marcher.
Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est, oui, comme je disais, et pour les relire maintenant en anglais, c'est la même chose. Quand Howard écrivait les nouvelles de Conan, Et il expliquait comme ça qu'il avait l'impression, dans le fond, d'être tout simplement un scribe. Qu'il avait à chaque soir, quand il s'installait devant sa machine, Conan qui venait se joindre à lui et qui lui criait, qui lui gueulait comme ça dans l'oreille des contes, des histoires. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chronologie dans les histoires de Conan. On commence, il est roi, une autre nouvelle, il a 16 ans, on s'en fout. C'est vraiment, ça a été fait comme ça. Et c'est pour ça qu'on a cette narration-là, parce que justement, Howard n'est que le scribe qui raconte comme ça.
Donc ça donne un peu le même effet, ça donne un peu l'effet que Conan n'a pas d'âge parce qu'il n'y a pas de chronologie qui est clairement établie, j'imagine.
On la sent, elle est là, si je veux dire, cet âge-là, mais outre le changement, je dirais, de statut, il n'y a pas vraiment d'importance.
Mm-hmm. Oui. Mais... T'sais, cette bande dessinée-là, on a très peu parlé de la couleur jusqu'à maintenant. Je dirais qu'il y a deux champs différents de couleurs dans cette BD-là. T'sais, premièrement, bon, au début, Conan est dans le désert avec Natala, puis la palette de couleurs est exactement la même que celle qu'on imaginerait d'une aventure de Conan. Donc, on est dans des tons de sable, de ocre, de brun. Puis, à partir du moment où on entre à Xutal, ben, soudainement, ça prend plutôt des tons de violet. Qu'on associe généralement, qu'on associe à l'ésotérisme, aux rêves. Puis bon, on a le peuple de Xutal aussi, qu'on ne voit pas tout de suite, qui est un peu une espèce de peuple du rêve, lorsqu'ils ne sont pas en train de vénérer... je ne veux pas massacrer son nom, là, c'est Vénéré Tog.
Oui.
OK. donc on a ces deux-là, puis je ne sais pas si vous aviez remarqué, non seulement dans la narration, on va souvent comparer Conan à un animal, on dit qu'il y a la fureur de l'ours ou la férocité du bulldog ou quelque chose comme ça, mais dans tout le décor de Xutal, on a souvent des sculptures d'animaux, des têtes de cerf. Un qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était une mante religieuse. Je trouvais ça assez funky, une sculpture de mante religieuse, mais pourquoi pas. Puis, toutes ces gravures-là, ce sont des gravures de prédateurs, comme si la ville était menaçante, alors que, bon, au début, on a croisé personne, mais il y a quelque chose d'inquiétant qui commence à se tisser. Puis, lorsqu'ils sont attaqués, car cette population-là finit par se réveiller et attaquer Conan et Natala, assez dévêtus et en grand péril. Conan, depuis le début, porte une espèce de cape sur ses épaules, puis à partir de ce moment-là, va remonter sa cape par-dessus sa tête, et c'est une peau de loup ou une peau d'ours, quelque chose comme ça, puis à partir de ce moment-là, ben, c'est comme si on nous indiquait par le dessin, il y a un nouveau prédateur dans la pièce.
Et par la couleur, donc, d'illustrer une menace, d'illustrer des ambiances différentes, où on voit une utilisation qui est peut-être plus classique de la couleur comparativement aux trois autres récits qu'on a vus aujourd'hui. Mais où on voit aussi que même avec une palette qui est quand même relativement limitée, ça va servir justement et ça va vraiment nous amener à mettre l'emphase sur certains aspects de l'ambiance. Genre le décor aurait pu être autre chose que poussiéreux, jaunâtre, un peu glauque. On aurait pu axer sur la lumière, sur d'autres éléments. La ville, on aurait pu aller vers d'autres types de tonalités, mais ces ambiances-là nous ramènent un peu au ressenti, à l'expérience qu'on peut avoir nous par rapport à la couleur. Favoriser, j'ai l'impression, une certaine immersion, à la limite, dans un contexte de lecture.
Mais et je pense que cette transition que souligne Émilie est comme, tu sais, bien importante, parce que justement, encore une fois, genre, je fais mon Monsieur Howard, tu sais, mais vous avez compris, je trippe. Tu sais, Conan est toujours décrit comme ça, comme une bête sauvage. Je veux dire, c'est un tigre parmi les loups, c'est un loup parmi les chiens, tu sais. Et il y a dans Xutal ces deux aspects, la survie, on est en mode survie, hein, au soleil, il fait chaud, on a tout ce qu'on pense. Et tout d'un coup, quand la menace, on est rassasié, et là, d'un coup, on redevient cette bête sauvage. Et donc, voilà.
Alors, je rappelle les quatre albums dont on a parlé au fil de la dernière heure. Alors, il s'agit de Conan le Cimérien, tome 13, donc Xutal, la crépusculaire, de Christophe Beck au scénario et Stéphane Subic au dessin. C'est d'après, évidemment, l'œuvre de Howard, c'est chez Glénat. Ensuite, on a Glengange dans le flot des souvenirs de Kevin Huizenga, c'est chez Delcourt. On a Voyage au centre de la Terre de Matteo Berton, d'après l'œuvre de Verne, c'est aux éditions La Pastèque, et vous aurez compris que j'y vais à rebours. Et on a commencé la discussion avec Bouée et Voler au-dessus des trous, donc le diptyque de Catherine Lepage, du côté des éditions de La Pastèque. Alors, merci à nos invités cette semaine, à nos lecteurs du Club de lecture, donc Marco Duchesne, Émilie Roy-Brière, Édouard Tremblay. Donc, merci à vous trois. Et on se retrouve le mois prochain avec une autre thématique. Et de notre côté, eh bien, nous, auditeurs, auditrices, on se retrouve la semaine prochaine. Entre autres sujets, ben, on explorera la trilogie Corvus avec son auteur Drac Bertiome. Alors, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Et passez une excellente semaine.